Première partie. Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée. Soit vers la catastrophe, soit vers le succès. Gabriel de la Rochefoucauld. Chapitre 1. Au fond, j'avais hâte d'être à la retraite. Je me voyais déjà passer mes vieux jours sur une plage paradisiaque en Thaïlande, occupant l'infinité de mon temps libre à boire des mojitos, à me faire masser et à nager au milieu des raimantas. Cette nouvelle vie, tout entière consacrée à l'oisiveté et au plaisir simple, me délivrerait enfin de mon asservissement à l'éducation nationale. Je songeais à ces jours meilleurs en corrigeant les copies de ma classe de terminale. Non, Victor Hugo n'était pas né à l'âge de 2 ans. Non, la Corée du Nord n'était pas dirigée par le terrible dictateur Kim Jong-un. Et oui, le niveau de culture générale de mes élèves me donnait des envies de démission sans préavis. Professeur depuis 8 ans dans un lycée de Bobigny, j'avais depuis longtemps abandonné tout espoir de transmission du savoir. À l'origine, pourtant, l'enseignement de l'histoire-géographie était chez moi une vocation. Je m'étais initialement donné la mission de guider les élèves défavorisés vers un avenir meilleur, de briser les mécanismes de reproduction sociale qui les maintenaient dans leurs conditions, naïvement convaincus de pouvoir faire une différence. En réalité, mes espoirs s'étaient effondrés dès les premières semaines de ma prise de fonction. Mes 30 lycéens étaient pareils à 1 millier d'animaux en cage, hurlant et tapant du poing sur les tables, prêts à en découdre sauvagement contre toute forme d'autorité. Chaque jour apportait son lot d'insultes, d'humiliations et de violences. Très vite, je dus me rendre à l'évidence. Il était vain de chercher à les extraire de leur milieu. L'institution scolaire exigeait un rapport à la langue française et à la culture classique, dont ils ne disposaient pas, et qu'il était trop tard pour acquérir. Ils semblaient prisonniers d'un destin sociologique écrit d'avance. Un TGV lancé à 300 km/h vers le chômage. Et aucun de mes conseils ne pourrait les faire dévier de leur trajectoire qui les menait inéluctablement droit dans le mur. La première année, cette confrontation au réel avait provoqué chez moi des crises d'anxiété épouvantables, ainsi que des remises en question auxquelles je ne voyais aucune issue. Enseigner, oui. Mais pourquoi ? La loterie génétique et familiale avait déjà désigné les gagnants, et mes élèves n'en faisaient pas partie. Mon médecin généraliste m'avait alors prescrit du Xanax à dose généreuse, ce qui permit que la deuxième année se déroula dans des conditions plus sereines. À l'issue de celle-ci, il me fallut prendre une décision. Changer de métier ou poursuivre avec résignation. Sur les conseils de mes collègues, je choisis la seconde option et me mis alors à enseigner le programme en fournissant un effort minimal, sans attente vis-à-vis des élèves, dans une atmosphère de laxisme total. Mes cours s'apparentaient à des séances de garderie chaotiques, au cours desquelles je ne tentais même plus de me faire entendre. Il s'agissait d'une solution fiable, éprouvée, qui nécessitait uniquement de m'asseoir sur ma dignité. Et ça, je savais le faire. J'étais même le champion du monde. Les 6 années suivantes s'écoulèrent ainsi avec fadeur, sans joie ni souffrance particulière, de sorte que j'atteignis l'âge de 32 ans en étant, on pouvait le dire, passé à côté de ma vie. Souvent, j'essayais de me rassurer en me disant qu'au moins j'étais en couple. Mais là encore, ma situation n'était pas réjouissante. Je vivais avec Cécile depuis notre rencontre à la fac 12 ans auparavant. Et il fallait bien admettre que notre amour enflammé avait désormais laissé place à une routine fatiguée. Les sourires complices et les étreintes affectueuses n'existaient plus que sur les photographies des années passées, reléguées dans une boîte à souvenirs au fond du placard. C'était triste, mais c'était la vie. Pensais-je à l'époque avec fatalisme. Après tout, l'érosion des sentiments constitue l'horizon de la plupart des couples. Une vie plate, donc, mais une vie stable. Ce n'est que vers la fin juin 2017, alors que Cécile et moi dînions dans un restaurant marocain près de Bastille, que les choses dégénérèrent. En entamant mon tagine au mouton, je vis tout de suite qu'elle était d'humeur massacrante. « Dis-moi, Guillaume, » dit-elle avec défiance en se servant un verre de Sidi Ibrahim. « T'as des idées de destination pour nos vacances d'été ?»«
Pas vraiment, non, » bredouillai-je. « On n'a qu'à retourner chez mes parents en Bretagne ?»
Alors là, il en est hors de question. « C'est au moins la 10e fois qu'on y va, j'en ai ras-le-bol. J'ai besoin de voir autre chose. On ne peut pas partir ailleurs pour une fois ? Des copines m'ont recommandé la Grèce, c'est joli la Grèce.
En cherchant bien, on peut trouver des billets abordables pour Santorin ou Paros. Ou alors la Croatie. Il y a de belles criques dans ce coin-là.
Bof, marmonnai-je la bouche pleine. C'est un peu cher, la Méditerranée.
Et alors ? S'agaça-t-elle. Tu ne sais pas te faire plaisir ? L'argent, tu ne vas pas l'emporter dans ta tombe ?
Je ne voyais pas très bien de quel argent elle voulait parler. Mon traitement de fonctionnaire s'élevait, après 8 ans de carrière, à moins de 2 000 euros nets mensuels. Mon frère gagnait la même somme à 22 ans lorsqu'il était stagiaire chez HSBC.
Tu sais bien que j'ai pas les moyens,
soupirai-je.
Je suis déjà à découvert. Je ne veux pas me retrouver interdit bancaire pour attraper des coups de soleil sur une plage bondée de touristes allemands.
T'es constamment blasé. Ça t'arrive parfois de vouloir t'amuser? De prendre les choses avec légèreté?
Merde, quoi, je bosse pas toute l'année pour passer l'été avec un mec dépressif!
Je haussai vaguement les épaules. Cécile faisait partie de ces grandes gueules qui assumaient fièrement leur côté cash. Fort d'un calme légendaire, j'absorbais la plupart du temps ses excès sans broncher. Il me suffisait de répéter « Oui, Cécile, c'est vrai. Tu as raison. » Et son exaspération retombait comme un soufflet. Je m'y étais habitué. Au travail comme à la maison, je subissais les sautes d'humeur des autres. C'était mon lot. Je repris un peu de tagine et constatai qu'il était encore chaud. Grâce au plat en terre cuite et au couvercle hermétique, la viande pouvait conserver sa température de cuisson pendant près 1 heure. Ils étaient vraiment ingénieux, ces Marocains. Cécile tenta de se resservir en vain, mais constata avec surprise que la bouteille était vide.
« Tu te fous de moi ?» s'emporta-t-elle de nouveau. « T'as déjà fini le rouge ? On prend une bouteille à 40 euros et tu la termines sans m'en proposer ?»
Je l'avais rarement vue aussi agacée. Elle me reprochait de cumuler tous les travers, blasé, égoïste, paresseux, fauché et maintenant alcoolique et goujat. Ces accusations me semblaient franchement exagérées et surtout injustes. Je rêvais secrètement de renverser la table en hurlant.
« Ah ouais ? Et si je dressais la liste de tes défauts, pour une fois ? On n'aurait pas assez d'une nuit pour les égrener tous, pauvres connes ! »
Évidemment, je n'en aurais jamais eu le courage. À la fin du repas, la serveuse apporta l'addition que je réglais pour moitié, laissant à Cécile le soin de payer son propre menu. Vexée, elle me sermonna sur le chemin du retour au sujet de mon manque de romantisme. Dans les artères de la capitale, l'air était sec et la température demeurait exceptionnellement élevée malgré la nuit qui tombait. À l'ouest, le soleil s'était couché derrière les lointains quartiers riches, là où mon frère Henri et son impitoyable femme Eva habitaient depuis toujours.
« Je ne peux plus accepter ça »,
soupira-t-elle avec désespoir en arrivant dans notre 2 pièces de la place Pigalle. Je levai les yeux au ciel. Que pouvait-elle bien avoir encore ? À ce jour, je n'ai toujours pas compris quelle avait été la goutte d'eau. Était-ce cette histoire de vacances refusées, de bouteilles de rouge vidées, d'additions partagées ? Toujours est-il qu'elle fondit en larmes. Recroquevillée sur le lit, elle se mit à pousser des cris de détresse entrecoupés de pleurs.
« On passe nos journées à s'engueuler, à quoi ça rime ?»
gémit-elle entre 2 hoquets, étouffée par l'oreiller.
« Tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Tu ne me l'as pas dit depuis des années. Est-ce que t'as seulement envie d'être avec moi ?»
J'observais en silence son visage défait, empourpré et gonflé de larmes. J'aurais pu lui répondre. J'aurais pu lui révéler la douloureuse vérité, que je restais avec elle uniquement par lâcheté. Mais je pressentais qu'il valait mieux la laisser crever l'abcès elle-même.
« En fait, tu t'en fous »,
se désola-t-elle.
« Je le savais. J'ai l'impression de te traîner comme un boulet depuis 12 ans. Chaque fois que je propose quelque chose, tu ronchonnes. Tu maugrées et tu grommelles un vague désaccord pour finalement accepter à contre-cœur. En réalité, t'as qu'une envie, c'est que je te foute la paix. Mais pourquoi tu ne le dis pas ? Pourquoi tu n'avoues pas que tu rêves d'être seule avec tes bouquins, tes séries et tes jeux vidéo ?»
Là, elle me tendait une sacrée perche. Il fallait vraiment intervenir. Je me préparais mentalement à faire valoir mon point de vue, à lui faire part de mes impressions sur cette décennie de relations bancales, mais au moment d'ouvrir la bouche, aucun son n'en sortit. Je n'y arrivais pas. J'étais incapable de m'opposer à elle.
« Tu n'as pas de courage », constata-t-elle avec un soudain mépris. « Tu n'es pas un homme. Tu n'as jamais osé rompre alors que tu rêves de le faire depuis des années. Eh bien, si tu n'en es pas capable, je vais décider pour toi. C'est terminé !»